Bonjour, bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Marc Brochu enseignera sur la série
« Israël, son histoire et sa vocation ».
À travers les Écritures, j'ai un premier passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 25, qui dit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Et verset 26 aussi, « Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Le libérateur, le Messie en l'occurrence. Alors, nous approchons ce passage de l'Écriture avec prière. Nous voyons la projection de la lumière céleste sur la question du peuple d'Israël dans le plan de Dieu. Il existe cette révélation, donc, de ce mystère concernant ce peuple appelé. Le Seigneur lui-même avait dit à ses fidèles disciples, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a choisi donc ses apôtres, ses disciples, lors de leur premier contact avec lui après sa mort et sa résurrection, qu'il leur avait annoncé d'avance d'ailleurs, qu'il ne pouvait connaître pour l'instant les temps et les moments fixés par Dieu concernant le royaume d'Israël. Mais dans l'intervalle, il leur avait donné le rôle d'être ses témoins. Et en commençant par Jérusalem, on le voit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, versets 46 à 47. Il leur dit, « Aussi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Aussi dans le livre des Actes des Apôtres, premier chapitre, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, par rapport à cela, des questions peuvent se poser. Premièrement, les Juifs sont-ils maintenant plus qu'avant préparés spirituellement pour ce changement vital de cœur et d'esprit, pour revenir au Dieu des Saintes Écritures, pour découvrir quelle est sa volonté et l'accomplir? Deuxièmement, sont-ils maintenant plus qu'avant physiquement et mentalement équipés avec les qualifications nécessaires à leur mission? Troisièmement, sont-ils maintenant plus qu'avant prêts à assumer eux-mêmes cette tâche qui n'est pas sans difficulté pour eux? Eh bien, d'abord à cette première question, bien la réponse est affirmative, oui. Pour la première fois dans l'histoire juive, nous pouvons voir les Juifs qui commencent à se demander qu'est-ce que le judaïsme, même depuis quelques décennies déjà. À l'époque des prophètes, dans leur situation perplexe et leur ambivalence, il y avait la question de savoir si Israël était pour servir Baal ou Yahvé ou les deux. Quand il est devenu clair que Yahvé était le seul Dieu, bien le judaïsme voulait alors servir conformément à ses commandements, tels qu'ils sont consignés dans les Écritures sacrées. Servir donc Yahvé, comme je dis. Avec la venue du Messie, Yeshua, Jésus, une crise est survenue qui a changé tout le cours de l'histoire juive. Alors que des milliers de Juifs croyaient au Messie, au Christ, le peuple dans son ensemble a suivi les dirigeants qui l'ont rejeté et par le fait aussi son enseignement. Peu de temps après, Jérusalem, y compris le Saint-Temple, centre du judaïsme, a été détruit. Et son peuple a été dispersé dans de nombreux pays. Et là, de nouveau, un grand nombre de Juifs ont appris à connaître Yeshua, Jésus, et l'ont suivi. Mais le peuple, dans son ensemble, a suivi aveuglément ses rabbins qui ont promis que s'ils gardaient la Torah, observaient ses commandements scrupuleusement et consciencieusement, Dieu leur enverrait le Messie qui les ramènerait dans la gloire immaculée de leur pays. Mais comment pourraient-ils garder les commandements de Dieu alors que presque tous étaient directement ou indirectement liés et dépendants de l'ordre sacrificiel, cet aspect qui ne pouvait plus être observé alors que dans la diaspora, bien il n'y avait plus de temple et plus d'autel? Les dirigeants de l'époque n'avaient-ils pas été frappés d'aveuglement partiel? Sinon, ils auraient vu que leur Rédempteur était vivant, qu'il était le seul sacrifice vivant. En fait, ils ont sauvé dans la suite du temps les quelques commandements qui pouvaient être conservés. Même en exil, ils ont construit autour de ces paroles de Dieu des haies, des clôtures, comme ils les appelaient depuis le judaïsme originel. Les dirigeants nourrissaient l'espoir que ce mode de judaïsme servirait le peuple comme un navire pour les transporter sur les mers de l'exil en toute sécurité jusqu'à ce que le Messie vienne. Ainsi, ils se sont embarqués dans une épave sur les mers bruyantes et inexplorées avec des flots déchaînés qui martelaient sur l'embarcation, avec des pilotes qui ne savaient pas grand-chose de la navigation. L'histoire y ajoute leur perte, leur souffrance indescriptible, ballottée pendant les 19 siècles, d'exil. Pourtant, ils ont enduré leur épreuve et leur tribulation avec l'assurance que le Messie et leur délivrance pouvaient survenir à tout moment. Ils devaient faire tout pour être dignes et hâter sa venue. Il fallait observer méticuleusement, implicitement, toutes les lois et ordonnances que les rabbins avaient prescrites. C'est ce qu'ils ont fait avec zèle et pas tout en faisant tout ce que les rabbins leur ont enjoint de faire. Cette foi implicite dans les rabbins et leur type de judaïsme pourrait conduire uniquement à la constante et stricte surveillance de la part de ses maîtres. Cela a été rendu possible lorsque les Juifs de la diaspora vivaient régis en ségrégation dans les ghettos, dépendant les uns des autres, responsables de chacun l'un de l'autre, dans un monde autour d'eux hostile et menaçant. Leur synagogue était le centre de la vie où toutes les idées étrangères, païennes, étaient un anathème où aucun livre en dehors des livres rabbiniques ne pouvait pénétrer. C'était le judaïsme de l'exil, le judaïsme du ghetto. Mais les vieux murs du ghetto se sont maintenant effondrés et même au-delà de toute réparation. Alors est venu l'âge des Lumières, l'âge de l'émancipation, et les Juifs éclairés et émancipés ont commencé à penser pour eux-mêmes. Ils ont commencé à douter de la sagesse des rabbins et se demander si les paroles d'Ésaïe d'autrefois n'étaient pas aussi pour les âges ultérieurs. Nous lisons dans le chapitre 3 du livre d'Ésaïe, verset 12, ce texte. C'est Dieu qui parle à son peuple. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants. » Et des femmes dominent sur lui, mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » De nouveaux dirigeants sont apparus. Divers autres ismes ont été lancés pour remplacer ce soi-disant judaïsme qui se détériorait rapidement. Mais même en intégrant tous ces ismes, de nouveaux espoirs et les aspirations étaient encore brisés dans le siècle passé. Tous les espoirs et les rêves, ce que les Juifs émancipés modernes avaient conçu en ce qui concerne l'éducation, le progrès, la science, la démocratie, le socialisme et d'autres idéaux similaires ont disparu pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Les atrocités nazies et la faillite du communisme en tant qu'idéal. Même au milieu de la fatigue et de la douleur des Juifs, dans toute la diaspora, la création de l'État d'Israël en 1948 a apporté de nouveaux espoirs. Tous les espoirs et les rêves, ce que les Juifs émancipés modernes avaient conçus en ce qui concerne l'éducation, le progrès, la science, la démocratie, le socialisme et d'autres idéaux similaires ont disparu pendant les années de la Seconde Guerre mondiale. Les atrocités nazies et la faillite du communisme en tant qu'idéal. Mais au milieu de la fatigue et de la douleur des Juifs dans toute la diaspora, la création de l'État d'Israël a apporté de nouveaux espoirs. C'était cependant aussi un nouvel État qui remettait en cause le judaïsme traditionnel et ramenait à la réalité de la vie dans cet État moderne. Dans cet État, s'est alors posé la question, qu'est-ce que le judaïsme? Les rabbins n'ont pas encore abandonné leur espoir d'instaurer leur marque du judaïsme. D'imposantes synagogues ont été érigées. Diverses attractions, des incitations étaient offertes pour s'enrôler comme membre. Beaucoup a été fait pour rendre le judaïsme plus attrayant, plus agréable au goût, plus digeste. Mais tout cela était en vain. Un peuple dans son ensemble se tient maintenant à la croisée. Un regard sur l'histoire des chemins. Nous pouvons voir désabusés, confus. Et la question encore se pose, plus blancs, nous devons leur fournir la réponse à ce dilemme. Le dilemme de la question où nous devrions répondre, retourner, voyez sur tout ce chemin, retournez pour voir derrière vous, hein, voyez tout ce chemin parcouru, depuis l'appel de Dieu de vous avoir choisi pour être son peuple saint et pour le faire connaître à tous les peuples de la terre. C'est dans ce but que Dieu vous a préservé à travers toutes les vicissitudes. La survie du peuple juif dans un monde étranger et hostile à eux est le plus grand mystère et le miracle dans l'histoire de l'homme gentil. Les Juifs le savent. Ils savent aussi qu'ils étaient destinés par Dieu pour le faire connaître au monde entier. Même les libéraux et les agnostiques parmi eux le reconnaissent. Même si tout est assez flou pour eux, ils savent qu'ils n'ont pas encore réalisé leur mission dans ce vaste monde. Pourquoi? Car, ayant suivi de faux prophètes et les dirigeants aveugles, leur connaissance de Dieu, de sa parole, de sa volonté est devenue confuse et édulcorée. Les idéaux les plus élevés et les plus nobles étaient échangés contre l'observance de rites sans signification qui aussi n'ont jamais fait appel au cœur du monde des gentils. Ils ont satisfait leurs propres désirs. De maigres rites qui sont devenus connus sous le nom de judaïsme ne pouvaient donner à l'homme l'assurance qu'il est un avec Dieu et que ses péchés ont été expiés. Il y eut ce genre de judaïsme qui avait maintenant moins d'attrait que jamais pour même les étrangers, parce que la plupart des Juifs eux-mêmes l'avaient abandonné. Ils réalisent eux-mêmes que tout cela ne les mène pas dans la bonne direction, le retour au Dieu de leur Père. Il est donc de notre devoir de leur montrer le chemin du retour vers Dieu, lui qui s'est révélé à leurs ancêtres et qui, par l'Alliance éternelle, leur a promis que toutes les familles de la terre devaient être bénies dans leur postérité. Nous lisons cela dans Genèse 12, au verset 3. Nous devons leur montrer que toutes les révélations ultérieures raffermissent cette alliance et son dessein divin. Alors, à la question, sont-ils maintenant plus qu'avant physiquement et mentalement dotés des qualifications nécessaires à leur mission? Ici aussi, la réponse est oui. Déjà au temps du Christ, du Messie, les Juifs étaient bien préparés pour leur mission.
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre enseignement du pasteur Jean-Marc Brochu. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com. À bientôt!